apparemment ça a l'air de marcher. Donc bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour cette seconde journée consacrée à l'évaluation de la recherche proposition et alternative. Alors j'insiste sur le terme proposition et alternative parce qu'il y a déjà eu une première journée état des lieux qui a eu lieu en mai. Et je ne vais certainement pas faire, bien sûr, le bilan de cette première journée, mais peut-être vous indiquer trois moyens pour accéder aux informations concernant cette première journée. Alors, le premier moyen, c'est le dossier à ce sujet qui a été publié dans le dernier numéro de la revue FNRS, que vous trouverez dans la farde qui vous a été distribuée à l'entrée. Un autre moyen qui est au fond plus complet, c'est la totalité des enregistrements de cette première journée et aussi d'ailleurs certains textes qui sont disponibles sur le site penserlascience.ulb.ac.be. Et alors il y a une troisième voie d'accès, si je puis dire, mais qui n'existe pas encore, mais qui, quand elle existera, elle aura l'avantage de rassembler les contenus de nos travaux de cette journée. C'est tout simplement la publication qui est prévue des actes de ce colloque. Si vous souhaitez être tenu informé de cette publication, eh bien, le plus simple, c'est de le mentionner sur la demande d'avis que vous trouverez également, je pense, dans la farde qui vous a été distribuée. Alors, je ne me suis pas présenté. Donc, je m'appelle Benoît Timmermans, je suis chercheur enseignant en philosophie à l'ULB et je suis l'un des membres du comité organisateur de ce colloque qui réunit également Hugues Bersigny, Barbara Clairbeau, Marek Hudon, Bruno Leclerc et Edwin Zakaï. Alors, je suis allé hier soir réécouter les quelques mots de synthèse d'Alain Hirali qui avait clôturé la dernière journée, la journée du 9 mai. J'ai, alors juste pour nous remettre, disons, dans le ton, dans le mouvement de la dernière journée, j'ai prélevé quelques morceaux de phrases. Fétichisme de l'indicateur quantifié, nécessité de réfléchir à une éthique de la discussion au sein des commissions d'évaluation, inégalité des conditions de départ face à une évaluation. Et, alors ça se trouve pas dans la synthèse d'Alain Hirali, mais on pourrait peut-être ajouter encore la diversité et la singularité des champs ou des objets d'évaluation, notamment dans le cadre interdisciplinaire. Donc ça, ce sont au fond les thématiques dans le prolongement desquelles nous avons voulu inscrire cette journée-ci, mais en insistant particulièrement pour cette journée-ci sur l'élaboration de propositions ou alternatives aux formes actuelles d'évaluation de la recherche. Alors je dis ça comme si ça allait de soi, élaborer des propositions et des alternatives. Et donc ici je dois vraiment vous remercier d'être là, de participer à ce moment qui est quand même assez particulier, puisqu'il n'y a peut-être pas eu tellement de tentatives de cette sorte, en tout cas de cette manière-ci, c'est-à-dire à la fois publique, interdisciplinaire et ouverte à tous. Donc c'est ça qu'on va tenter, à certains égards c'est peut-être une première, et nous sommes en tout cas, les organisateurs, nous sommes bien conscients, d'une part, nous sommes conscients du fait qu'il y a quelque chose de relativement artificiel par le fait d'avoir séparé ces deux journées, quelque chose d'artificiel à distinguer l'état des lieux des propositions. Il va de soi que si on fait des propositions, c'est parce qu'on a en tête un certain, disons, diagnostic et que les diagnostics qu'on peut poser peuvent varier, peuvent diverger, et bien entendu donc poser faire des propositions, mais ça dépend du diagnostic. Et donc nous nous attendons bien entendu à ce que les débats qui ont animé déjà la première journée concernant la façon dont il faut concevoir les évaluations de la recherche, bien animent encore d'une certaine manière cette seconde journée. Et d'autre part, nous sommes aussi conscient de la difficulté intrinsèque qu'il y a à construire des propositions. C'est-à-dire, ça ne va pas du tout de soi, il se peut parfaitement que en s'essayant cet exercice, on se rende compte justement des effets pervers ou des effets non désirés, des dérives possibles, des propositions même auxquelles on pense. D'où l'intérêt peut-être de marquer aussi le fait qu'on pourrait s'intéresser aussi non pas seulement à ce qu'il faut changer, mais aussi à ce qu'il ne faut pas changer, à ce à quoi nous tenons déjà dans les processus d'évaluation actuels, et être attentif aussi peut-être à ce qui pourrait ne pas être évalué. C'est aussi peut-être une manière de gérer, si je puis dire, la difficulté qui sera la nôtre. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'exercice est difficile et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux quatre orateurs de la matinée de nous inspirer dans cette tâche et de s'y atteler d'ailleurs avec nous dans l'après-midi. Alors avant de céder la parole à Isabelle Steinwerth, juste quelques mots sur l'organisation pratique. Si vous pouviez penser au moment de la pause café qui viendra immédiatement après les questions qui suivront l'exposé d'Isabelle, à régler, si vous choisissez de participer au repas du midi, à régler les 5 euros ici à l'entrée. Il y a également une possible attestation de présence pour quiconque en aurait besoin. Et puis, pour le reste, un tout petit mot, mais vraiment un tout petit, sur l'organisation pratique des ateliers de cet après-midi. Vous trouverez dans la farde qui a été distribuée, disons, une présentation des ateliers et de leurs possibles règles de fonctionnement, mais rien n'est, je dirais, figé, et en particulier en ce qui concerne la répartition de ces ateliers. Pour le moment, nous avons relativement peu d'inscrits pour les ateliers 2 et 3, comparativement aux ateliers 1 et 4. Donc on fera un point là-dessus, je dirais, en fin de matinée, et on verra un petit peu comment on s'organise. Voilà, alors Isabelle Steinwerth n'a plus besoin d'être présentée, donc juste rappeler quand même qu'elle a assuré pendant plus de 20 ans la chaire de philosophie des sciences à l'ULB et qu'elle est l'une, avec Pierre Marage, des animatrices, animateurs historiques de Penser la science, et donc c'est pour ça qu'on est tout particulièrement heureux de l'entendre ici.
Bon, je suis philosophe, donc ne vous attendez pas à ce que je sois très sérieuse. Ce que je voudrais est, c'est peut-être un des boulots de la philosophie, essayer de vous faire penser sur le mode de l'imagination et de l'appétit quant à ce qui pourrait être possible et ce qui serait important, non pas par rapport aux contraintes, au blocage d'aujourd'hui, mais par rapport à juste un peu après. Et ce un peu après est déjà là. C'est pourquoi l'idée de comment désirons-nous être évalués est évidemment quelque chose, une formulation qui pourrait être vue comme paradoxale, puisque l'évaluation est à juste titre à la séance précédente a plutôt été, le mode d'évaluation a été critiqué. Mais il me semble que pour résister à la désespérance qu'il peut susciter, il s'agit d'échapper à la nostalgie du passé, mais à fabriquer de nouveaux appétits qui pourraient être pertinents pour aujourd'hui et demain. Alors, finalement, ce désir d'évaluation n'est pas si paradoxal que ça si on se rapporte à presque quelque chose que tous les enseignants ici connaissent, c'est-à-dire qu'il arrive souvent que lorsqu'un étudiant a remis un travail écrit, il désire vraiment être évalué. C'est-à-dire que l'enseignant lui fasse un commentaire qui peut être critique, mais qui prouve qu'il y a mis le temps, qu'il l'a vraiment lu. Dire très bien, vous avez 18, etc., ne satisfera pas certains étudiants. Certains autres, oui. Mais il peut y avoir un désir de réponse, de voilà comment j'ai lu ce que vous avez fait, que l'on sent très bien. Et lorsqu'il s'agit de la recherche scientifique, et notamment de la recherche dans les sciences que j'appelle théorico-expérimentales, eh bien, cette évaluation, ce désir d'évaluation devient crucial. Il est, me semble-t-il, lié au fait que les épistémologues, mes confrères et consoeurs, négligent parfois que la recherche en sciences modernes, dans les sciences modernes, est avant tout quelque chose de collectif. Un scientifique n'a jamais raison tout seul. Il a raison dans la mesure où la manière dont il a répondu, à l'évaluation de ses collègues, permet à ses collègues de dire en effet il a raison. Le scientifique n'est jamais tout seul. Ce qui compte pour lui dans ce modèle-là, modèle ancien, modèle qui est en train d'être mis en cause par l'économie de la connaissance qu'il faut distinguer du management de la connaissance, ce dont l'évaluation compte ou comptait auparavant, c'était ce que j'appelle ses collègues compétents. Bruno Latour, quand il s'occupe de Pasteur, remarque que le chercheur, un chercheur comme Pasteur, n'est pas tout seul dans son laboratoire. Il est peuplé par les ombres de ses collègues compétents, notamment Libic, dont il sait qu'à la moindre faiblesse de ce qu'il va proposer, ils attaqueront. Ils diront, mon cher collègue, ce que vous dites, c'est une prétention, mais il y a moyen d'interpréter vos résultats autrement. Donc, la réussite de Pasteur dépend, et dépend au sens positif, c'est-à-dire que ça le force à inventer, ça le force à être exigeant, dépend de l'ombre, la présence de ses collègues qui sont des objecteurs virtuels. Et il désire que ses collègues essayent d'objecter. Le bonheur du chercheur, c'est de pouvoir répondre aux objections. Le malheur, c'est quand une proposition qu'il sait susceptible de changer beaucoup de choses, et donc qui devrait intéresser ses collègues, ne récolte aucune objection. Aucun n'a jugé que ça valait même la peine de chercher la faiblesse. Ça, c'est le malheur. Sa proposition, elle pourrait être peut-être un jour reconnue dans l'avenir comme vraie, elle aura fait partie du bruit scientifique. Malheur aux précurseurs dans ces sciences. Ils n'intéressent que les petits curieux ou les historiens qui poseront simplement la question, pourquoi n'a-t-on pas pris au sérieux ? Hyper malheur encore, celui qui non seulement n'attire pas l'intérêt, mais en plus, pose le seul problème, est-il dupe ou malhonnête ? Ça a été le cas de Jacques Benveniste. Il a réussi à se faire publier dans Nature, puis il y a une commission d'enquête qui n'était pas constituée de collègues compétents. Il y avait le directeur du journal, un chasseur de fraude et un prestidigitateur. Donc on laissait la place à est-ce de la fraude ou est-il été lui-même dupé par un tour. Donc là, non seulement c'est pas digne qu'on objecte, mais en plus, c'est immédiatement remis en cause. Donc l'évaluation est cruciale. L'évaluation là est cruciale et elle se fait par les collègues lorsque ça réussit. Je crois qu'on peut vraiment dire que dans ces sciences, objection et objet vont ensemble. C'est-à-dire que quelque chose est reconnu comme objectif dans la mesure où il a résisté avec succès aux objections. S'il n'a pas suscité d'objection, c'est ni objectif ni subjectif, c'est du bruit. Et la valeur, alors, est liée, justement, avant tout, au fait que les collègues ont été assez intéressés pour mettre à l'épreuve, l'évaluation est toujours une épreuve, pour mettre à l'épreuve ce qui a été proposé. Et ils sont intéressés, pourquoi ? Parce que, et c'est pour ça que je les appelle collègues compétents, parce que si jamais le résultat est fiable, ils pourront s'appuyer dessus. Ils pourront le citer, ils pourront concevoir de nouvelles possibilités de mise en théorie ou de nouvelles expérimentations qui s'écrouleraient si soudain ce qu'ils avaient considéré comme fiable se révèle un pur artefact, c'est-à-dire quelque chose qui semble prouvé mais qui a été en fait dont la mise en scène par le chercheur est responsable. Donc l'objection ici est bienvenue. Et bienvenue, celui qui objecte sera mon cher collègue. Je remercie mon cher collègue de cette intéressante objection, ou alors je retourne travailler pour essayer de répondre à ce cher collègue. Mais si je réussis à répondre à l'objection, j'aurai aussi donné plus de force à ma proposition. Et en fait, souvent, le devenir reproductible d'un résultat est obtenu aussi dans la mise au point qui permet de répondre aux objections. Donc je dirais qu'ici l'évaluation est inséparable de ce qui pour moi constitue une des singularités de cette recherche, c'est-à-dire une forme d'intelligence collective où celui qui objecte et coopère, où objection et coopération vont ensemble. C'est un peu, je veux dire, l'histoire est pleine d'injustices, de méchanceté, etc. Mais quand ça se passe comme ça, je dirais que les expérimentateurs ont l'impression que c'est une belle histoire. Trois remarques à ce sujet. C'est aussi de là que vient l'idée d'une autonomie nécessaire des communautés scientifiques. Benveniste a été vraiment maudit par les scientifiques en général, quand une bande de non-scientifiques, par exemple Edgar Morin, puis je, ont publié dans Le Monde un appel à prendre au sérieux ces théories. Des non-compétents se mêlaient de ce qui ne regarde que le verdict des collèges. Lysenko était longtemps le repoussoir absolu parce que, pour des raisons politiques, ses recherches avaient été reconnues comme valides, alors que celles des généticiens leur avaient valu la Sibérie ou pire. Donc, il faut attendre le verdict. Souvent on parle de neutralité du fait, mais le fait a une valeur pour les scientifiques, et c'est même parce qu'il a tellement de valeur qu'il faut attendre le verdict qui dit il y a bel et bien fait au sens de la réussite expérimentale. Alors compétence, ça veut dire aussi, et ça c'est l'une des singularités des sciences expérimentales par rapport à d'autres sciences qui seraient plus enracinées dans des terrains concrets, qu'ils partagent les collègues partagent les mêmes critères de réussite, en gros les mêmes valeurs, les mêmes exigences, et globalement le même sens de ce qui est pertinent, de ce qui compte, de ce qui peut importer. Donc l'évaluation ici, elle est, comment dirais-je, elle roule bien. En tout cas, elle est censée bien rouler parce que il y a très rarement de conflit sur le fond. Une réussite est quelque chose qui est censé être apprécié par tous les collègues. Le problème. Et de ce point de vue-là, le problème, troisième remarque, c'est que ce type d'évaluation par les pairs ou les collègues compétents a été adopté comme modèle général par rapport à toutes les sciences. avoir publié dans un journal à référer. Et ça a des effets très différents. Là, je viens à la pluralité des champs scientifiques selon le champ scientifique. Je ne sais pas très bien qui sont mes collègues compétents. Je crois que 90% des philosophes diraient que je ne suis pas une philosophe. Alors, si je tombe sur un... Donc, il y a des journaux auxquels je n'irai pas présenter quoi que ce soit. Il y a des conflits. Un psychanalyste n'ira jamais proposer quelque chose à une revue de psychologie expérimentale. Conflits doctrinaux. Et là, le collègue compétent ne demandera pas est-ce qu'il a réussi. Parce qu'il ne peut pas y avoir de réussite d'un psychanalyste du point de vue d'un psychologue expérimental. Et ça peut aller très loin. Peut-être qu'un journal de psychanalyse freudienne reconnaîtra les lacaniens à l'odeur. Il ne peut pas y avoir de réussite. Et un peu partout comme ça. Et aussi, la réussite pour un expérimentateur, elle se traduit par une publication dans des revues internationales. Pourquoi ? Parce que ce qui est réussi dans un laboratoire est aussi pertinent pour d'autres laboratoires, même s'ils sont à Hong Kong ou à Honolulu. Donc, journal international, parce que compétences délocalisées. Pas du tout le cas pour des recherches qui sont plus enracinées dans un terrain spécifique. Et qui pourrait être publié dans un journal européen ou belge, voire wallon, ou bruxellois, mais certainement pas dans un journal international. Ça vaut beaucoup pour l'économie, par exemple. Privilège des modèles abstraits par rapport aux recherches concrètes. Et donc, allure théorique d'une science qui pourrait demander bien d'autres questions pertinentes. Donc, qu'est-ce qu'un collègue compétent? Qu'est-ce qu'une réussite? Là, c'est affaire de conflit et d'exclusion, et donc le modèle bafouille. Aujourd'hui, avec l'économie de la connaissance, je pense que même, c'est reconnu, je crois, par les expérimentateurs des sciences théorico-expérimentales, ce modèle est en crise. Il n'y a plus une seule manière de réussir qui passe par le verdict des collègues compétents et après on tente de donner une portée maximale à ce qui a été réussi, mais d'abord le verdict des collègues compétents, on peut réussir par partenariat, spin-off, on peut promettre des impacts, donc faire venir les conséquences avant la fabrication du fait, par des impacts qui devraient intéresser tout le monde. Conflits d'intérêts se multiplient, ça c'est plutôt lié au management d'ailleurs, mais je veux dire, parfois, ce sont de véritables bulles spéculatives qui explosent. Quelque part, une promesse a été faite et puis se dégonfle. Et là, je dirais que l'objection, la controverse entre collèges, est-ce que ceci tient ou pas, donne à son tour souvent des conflits. Pourquoi ? Parce que une critique contre quelque chose qui a un succès par partenariat industriel fait que le critique n'est plus un collègue dont les objections sont bienvenues, mais quelqu'un qui peut mettre en danger le champ en mettant en danger le partenariat. Le collègue peut devenir un ennemi. Je ne vais pas me prononcer sur la valeur de ses recherches, mais si vous avez entendu parler du cas Serralini, beaucoup de ce qu'il a fait traduit avant tout que ceux qui allaient l'évaluer, ils savaient que c'était des ennemis. C'est-à-dire des gens décidés non pas à s'intéresser à quelque chose qui pourrait être pertinent, mais à démolir ce qu'il disait parce que ça mettait en danger le lien entre biotechnologie et industrie. Deuxième remarque, ou troisième, j'en sais rien, la crise, même dans les sciences théorico-expérimentales, était déjà là. Moi, j'ai déjà entendu parler de publish and perish quand j'étais jeune chercheuse travaillant avec les scientifiques dans les années 70. La question des renvois d'ascenseurs, des effets de clic, etc., était déjà à l'ordre du jour. Déjà, les référies étaient surchargées et, et on se plaignait de l'hyperspécialisation, de la fragmentation, qui fait qu'on avait du mal à trouver des collègues compétents. Déjà, la valeur tendait, commençait à être mesurée par des bibliométries, enfin des travaux qui donnaient le nombre de citations. Donc tout ça était déjà là et était avant tout, me semble-t-il, lié à une fragmentation et à une... au nombre de chercheurs. Ces collègues compétences, ça avait été inventé par et pour une science où finalement le nombre de les chercheurs un peu renommés s'entreconnaissaient dans un même champ. Ici, on doit gérer la masse. Et donc, déjà commençait la mise en crise de ce système d'évaluation par les pairs. On peut dire que l'évaluation dite objective a finalement transformé en norme impérative ce qui était déjà le cas, c'est-à-dire un découplage entre évaluation et collègues compétents activement intéressés à évaluer, collègues qui lisent vraiment un article au lieu de voir dans quelle revue il a été publié, etc. Ce qui signifie qu'il faut éviter la nostalgie. Le modèle qu'on pourrait regretter était déjà en crise profonde dès les années 70, je pense. En tout cas, c'est là que j'ai déjà entendu parler de ces histoires-là. Et donc, comment désirons-nous être évalués devrait, rejeter, comme disait Benoît, il y a des choses auxquelles nous tenons, mais pas l'ensemble de ce modèle, qui a autour duquel l'université s'est construite. Alors, ce à quoi nous tenons, enfin, ce à quoi je tiens maintenant, finalement, c'est régénérer des formes d'intelligence collective. Parce que, justement, et le management et l'économie de la connaissance détruisent l'intelligence collective, fabriquent une compétitivité, une compétition, mais aussi un cynisme, mais aussi, un mépris de la pertinence. L'évaluation, Dominique Pestre en a parlé, j'ai entendu l'évaluation au sens néolibéral du terme, au sens du new management, est d'autant plus efficace qu'elle est absurde. C'est-à-dire qu'elle est, efficace au sens où elle signale effectivement que ce qui est demandé de tous, y compris du chercheur, c'est la flexibilité, c'est le manque de scrupules, c'est l'opportunisme, c'est-à-dire la réponse souple aux signaux du marché, et si le marché n'existe pas, on en inventera un. C'est-à-dire, par exemple, le ranking des revues. Cela détruit évidemment l'intelligence collective, dont le problème, me semble-t-il, est celui de l'originalité des sciences modernes, même s'il est beaucoup plus clair dans les sciences théorico-expérimentales qu'entre psychiatres et psychanalystes et psychologues expérimentales. Comment régénérer une forme d'intelligence collective, mais qui ne soit pas forcément uniquement, je ne dis pas ni, mais pas uniquement, l'évaluation comme par les pairs. Mais aussi, justement, pour que ces différences entre les formes de recherche théorico-expérimentale et les autres ne se traduisent pas par une faiblesse des autres et par que Freud parlait de désir de pénis, d'envie du pénis, d'envie de devenir science dure, etc., cesser de penser l'évaluation comme concernant la science. Non seulement il y a des sciences, mais à l'intérieur des sciences, il y a différentes manières de fabriquer du savoir. Et je proposerai finalement, à la fin, que l'une des comment dirais-je, des appétits d'imagination, mais d'épreuves, parce que c'est une épreuve, c'est si chaque projet de recherche avait pour tâche et était notamment évalué sur sa capacité à dire comment il pense qu'il est pertinent qu'il soit évalué. C'est-à-dire qu'il... Et c'est une épreuve, hein. C'est une épreuve de renoncer à l'objectif, à l'idée tout terrain, nous servons l'avancée du savoir, donc nous devons être subventionnés. Non, l'avancée de la science, etc., devrait, qui sert de justification tout terrain, est peut-être quelque chose, par rapport à quelque chose de plus exigeant, devrait être imaginez-vous, Comment vous diriez, quelle est l'évaluation pertinente pour ce que vous proposez? Et cela veut dire aussi le fait que l'on ne serve pas la science, au sens la rationalité, etc., de peut-être qu'il s'agit de renoncer aussi, et là je me, comment dirais-je, sur, la, sur une certaine irresponsabilité revendiquée par des chercheurs quant à la manière dont ce qui a été reconnu comme ayant une valeur scientifique, notamment évaluation par les pairs, sera ensuite valorisé. Certaines irresponsabilités, cela ne nous regarde pas. Argument du genre, est-ce qu'on va reprocher à celui qui a inventé cette hache si utile pour construire nos maisons qu'elle serve pour assassiner son voisin? Non, évidemment, ce n'est pas de la faute de celui qui a inventé la hache. Ça revient aujourd'hui à propos des OGM qui m'ont beaucoup fait penser. Nous servons la science et la science permet de résoudre éventuellement, comme fait Marc Montagu, le problème de la faim dans le monde. Va-t-on reprocher les dérives alors que, la question de la faim dans le monde était ce qui correspondait au progrès pour l'humanité, induit par la science. Je crois que comment ce que l'on cherche doit être évalué doit intégrer aussi la nécessité de répondre. Non pas de ce qui sera fait de ce qu'on propose, ça personne ne peut le faire, mais du souci, de la non-naïveté, de la non-arrogance quant à ce qui pourrait être fait de ce qui. Et donc une imagination dont, avec fierté, Montagu dit pouvoir se passer quand il associe les OGM à la faim dans le monde, quand il définit l'impact des OGM de ces manières-là. Il y a donc non pas le scientifique qui garantirait que la valorisation sera bonne, mais le scientifique qui cultive la nécessité que l'on fasse attention que la valeur de ce qu'il propose peut produire des résultats absolument non désirables. Il y a, là une imagination qui n'est pas cultivée aujourd'hui. Aujourd'hui, quand un scientifique s'inquiète trop de ce qu'on pourrait faire de ce qu'il cherche, on lui dit « t'es pas un scientifique, c'est des questions non scientifiques ». On lui dit « la société décidera ». On n'écoute pas ceux des sociologues qui disent la société elle est totalement incapable de décider. Enfin, où est-ce que vous voyez, vous avez déjà rencontré, où ça se discute ce truc-là? La société décidera. Il y a, ça m'intéresse beaucoup, il y a des tentatives en ce sens, mais elles traduisent justement le fait qu'entre la valeur scientifique et la valorisation, il doit y avoir des opérations de mise à l'épreuve qui concernent les scientifiques. Je parle de ce qu'en France on appelle les conventions citoyennes. Là, en cas d'innovation qui se présente comme ayant un impact qui doit intéresser tout le monde, OGM par exemple, etc., ou suscitant des problèmes d'intérêt général, eh bien, l'idée est de réunir des citoyens tirés au sort, mais qui acceptent de passer du temps pour entendre des experts contre experts, etc., et qui doivent donner un avis sur ce qu'ils ont compris et appris. Et ces avis sont très souvent cruels par rapport aux experts, parce que justement dans la mesure où là, et eux deviennent remarquablement attentifs, un peu comme souvent dans les jurys d'assises, parce qu'ils savent, parce qu'ils ne sont pas sur les bancs de l'école, non, ils peuvent demander des confrontations, des suppléments d'informations, ils doivent s'assurer qu'ils ont pu entendre et pu confronter ensemble même des gens qui ont des avis opposés. Eh bien, ces conventions citoyennes, si elles devaient se répandre, si elles devaient faire partie de l'évaluation des grands projets à impact qui sauvent le monde, etc., elles demanderaient aux scientifiques un tout autre type d'éducation. Parce que tels qu'ils sont éduqués aujourd'hui, ils vont au casse-pipe s'ils vont à une convention citoyenne, parce qu'ils sont en général protégés des contre-experts. Bon, donc, pour moi, la question ici, c'est cette question de la... C'est accepter la question de la valorisation comme non pas regardant directement le scientifique, mais devant l'intéressé, et devant intéresser l'université. Parce que, par exemple, si Montagu dit la fin dans le monde, ça veut dire aussi qu'il néglige, qu'il n'a pas besoin de l'avis de ceux qui seraient compétents pour savoir si les OGM et ce type d'agriculture peut effectivement résoudre la fin dans le monde. Non, les sociologues, les sociologues du développement, l'ensemble des recherches sur les mécanismes de la fin dans le monde n'ont pas droit de citer Montagu, ne parle que à qui parle Montagu, au public et à l'État et au grand public, propagande sur l'impact. Donc il s'agit d'échapper à, en s'occupant de la valorisation, en la disant sérieuse, en luttant contre l'irresponsabilité souvent revendiquée quant à la valorisation, il s'agit de, pour moi, d'échapper à l'alternative entre science pure, servant la cause de l'avancée des connaissances, n'ayant rien à voir avec ce qu'on en fera, et marchandisation. Si on reste entre la connaissance n'est pas une marchandise, on tombe sur le fait que la connaissance est une valeur transcendante qui n'a aucun compte à rendre quant à la manière dont elle sera pertinente dans nos sociétés. Donc la question « comment désirons-nous être évalués ?» implique aussi, selon évidemment le type de portée qu'on donne à son projet, le souci des modes de valorisation. Dans le cas des projets à potentiel innovateur, l'évaluation devrait demander les contre-experts qui assureraient une certaine fiabilité dans le passage prévu par l'innovation entre le lieu bien contrôlé où la proposition a gagné sa validité scientifique et le lieu bien plus incontrôlé et sujet à bien d'autres problèmes où il opérera et perdra sa fiabilité, produira des dommages collatéraux bien regrettables mais qui ne regardent pas le scientifique. Donc une manière d'être, une manière d'être évaluée qui traduirait cela, c'est de demander des contre-experts lorsqu'un programme implique, quelque chose de l'ordre de l'innovation ou de l'ordre de quelque chose qui intéresse, qui est d'intérêt public. Ça regarde aussi les sciences sociales, les sciences économiques, etc. De manière générale, je dirais, une question qui a été posée par certaines féministes et qu'il ne faudrait pas oublier quand il est question de cela, c'est cui bono, pour le bien de qui ? Pour le bien de qui si on propose que ce sera qu'une recherche, qu'un programme est digne d'être accepté, passe l'évaluation. Donc le coup bono, ben évidemment, c'est difficile. Tant qu'on est dans la recherche dite pure, qui n'intéresse que les collègues compétents, le coup bono, c'est le bien de tous, en fait. Parce que si ma proposition réussit, eh bien, ça ouvrira de nouvelles perspectives à tous les collègues compétents. C'est en ça qu'ils sont compétents. C'est parce que ça compte pour eux qu'ils sont aussi compétents pour vérifier la validité de la proposition. Le problème, évidemment, c'est ce plus bono devient beaucoup plus raréfié ou beaucoup plus canalisé lorsque le résultat sort du laboratoire. Plus bono pour les OGM, est-ce qu'on va dire que c'est pour le bien des industries qui prennent des brevets ou que c'est pour le bien du développement de nouveaux pesticides liés à la multiplication des plantes résistantes ou des insectes résistants? Plus de mots, ça implique de l'imagination, c'est-à-dire pas uniquement le bien que je recherche et ceux qui en seraient le bénéficiaire, mais tous ceux qui pourraient en être les victimes. Imagination, il y a aussi nécessité de contre-expertise qui complique cette idée. Au lieu de dire mon impact sera, positif pour la productivité agricole, par exemple. Maintenant, regardons tous ceux par rapport aux qui ça peut être un bien, mais ça peut être aussi, un dommage. D'autre part, et enfin, on pourrait dire, oui, mais d'accord, ok, mais il y a des tas de sciences qui doivent aussi pouvoir être évaluées, mais qui n'ont pas d'ambition de changer le monde ou de réformer le monde. Vous allez oublier les philosophes, les romanistes, les historiens de l'art, la faculté. Désormais, on ne peut plus parler de faculté de philo et lettres, puisque les sociologues, eux, sont censés aider à fabriquer une société ou à la critique, etc. Mais les historiens, pas tellement, je veux dire. Donc, je dirais, et ça peut valoir pour tous, il y a quelque chose. Et si on pense à l'université, il y a une catégorie qui manque, dont Lévi-le-Bon a dit que c'était peut-être un des drames des sciences. Ça manque d'amateurs. Amateur, ça veut dire incompétent. Ça veut dire quelqu'un dont il faut nourrir la curiosité, mais on n'attend pas de lui beaucoup d'esprit critique. L'esprit critique est censé aller du côté des compétents. Or, amateur, si vous regardez l'informatique, si vous regardez les instruments de musique, si vous regardez même le sport, j'ai souvent regretté que les journalistes scientifiques ne soient pas aussi intéressants que les journalistes sportifs, qui disent des choses, eux, tandis que les... si vous regardez ces amateurs-là, vous vous rendez compte qu'ils ont leurs compétences à eux. C'est-à-dire qu'ils sont capables de discriminer entre quelque chose d'intéressant, de nouveau, qui pourrait être pertinent, ou quelque chose, c'est du bluff, c'est de la propagande, c'est de la pub, etc. Ils ont un sens critique sur la qualité de ce que l'on propose, dont les scientifiques manquent souvent, alors même que, quand il s'agit d'évaluer un champ voisin, ils sont aussi des amateurs, ils ne sont pas compétents pour évaluer un champ voisin, mais souvent, ils manquent de cette compétence de l'amateur parce qu'ils n'aiment pas le champ voisin. Ils regardent si la méthodologie est bien faite, etc. Donc, l'université est dépeuplée d'amateurs. Amateur, c'est aimer. C'est j'aime, je critique bien parce que j'aime bien. Ceci est indigne. Ah, ceci est intéressant. Bon, on a dit, j'ai lu un sociologue qui disait qu'il aimait tout, dans le temps, qu'il aimait bien l'université parce que c'était tout de même l'endroit, le seul, où quand il donne cours à ses étudiants, ils peuvent se dire dans la salle, il y a peut-être un futur collègue. Et ça peut être dit. Mais ce que j'aimerais bien penser, c'est que celui qui enseigne ou celui qui forme des étudiants ou qui, comment dirais-je, travaille avec une équipe de chercheurs se dise dans la salle, parmi les étudiants, il y a aussi de futurs amateurs. Et ces amateurs sont vitaux. Comment, dans notre université, dans les universités modernes, depuis qu'elles sont démocratisées, il y a un gâchis formidable. Minoritaires sont les étudiants, y compris de valeur, y compris qui ont pris goût à ce à quoi on les initiait, qui travailleront dans un domaine où ce goût sera véritablement pertinent. Quand on entend nos collègues dire aux étudiants « Venez chez nous, il y aura des métiers », ben, il vaut mieux se boucher les oreilles, parce que c'est pas très convaincant. Hein. Donc c'est un terrible gâchis, parce que une fois qu'ils sont rejetés à l'extérieur, ils peuvent devenir une clientèle captive à la recherche d'informations pour se tenir au courant. Ils ne seront plus jamais traités en égaux. Mais quelque part, l'amateur, lui, n'est pas une figure de l'égalité entre collègues compétents, mais il y a une égalité tout de même parce qu'il peut objecter. Parce qu'il peut objecter d'un point de vue qui n'est pas exactement celui du collègue compétent, mais celui aussi de son insertion et de ce qu'il a appris, et du recul avec le goût qu'il a gardé, du recul qu'il a eu. Comment dirais-je, que sa vie et son expérience lui ont donné. Donc il y a une certaine égalité avec les amateurs. Il faut prendre au sérieux les amateurs. Et l'idée que les amateurs, qui sont quelque part un peu partout et qui peuvent être, que les amateurs sont aussi ceux qui valorisent le savoir, ceux qui donnent de nouvelles valeurs au savoir, ceux qui peuvent intervenir en tant que citoyens, mais citoyens amateurs, dans une controverse, etc., cela est très important. Il me semble qu'une université qui se dirait l'une de nos charges est de former des amateurs et qui concevrait l'enseignement et la transmission, non pas avec l'idéal de fabriquer de futurs collègues, mais avec l'idée que notamment des profs seront meilleurs s'ils sont aussi amateurs, s'ils ont un rapport vivant et exigeant au type de savoir qu'ils enseignent, que l'une des charges de l'université est de fabriquer des amateurs, ça pourrait donner des idées. La valeur, c'est aussi celle que les amateurs apprécieront et éventuellement contrôleront. Et ils peuvent être redoutables. Si, justement, ils sont, comme disent les Américains, empowered d'être des amateurs. Ce que sont les amateurs sportifs, les amateurs en musique, les amateurs, etc. Donc, un milieu amateur, un milieu associé qui peut nourrir les chercheurs, qui peut les préparer à rencontrer un monde qui ne se réduit pas à ce qu'ils voudraient qu'il soit pour que ce qu'ils proposent soit intéressant. Un monde où, justement, à cause de cette indétermination entre compétences et amateurat, les chercheurs soient plus préparés à accepter la complexité, je déteste ce mot, mais accepter que le monde ne ressemble pas à leur théorie. Et je crois que ça, et je termine là-dessus, excusez-moi, je crois que j'ai pris un peu trop de temps, ça, je crois que c'est une responsabilité de l'université très actuelle, parce que les étudiants auxquels nous avons affaire aujourd'hui et ceux que nous aurons affaire demain, ceux qui seront nés dans ce siècle, ce seront ceux qui verront ce que je ne verrai pas, disons, 2050, and all that. C'est-à-dire verront des choses que je ne peux pas imaginer et dont j'ai peur qu'elles soient assez sinistres. Et les sciences auront un rôle à jouer dans la... Ce sera de toute façon pas drôle. Je ne suis pas une dénialiste, je pense que même si nous réussissions à modérer nos émissions, nous allons vers des demain qui déchantent. Et je crois que la pertinence des savoirs développés à l'université, leur exigence, leur refus de dire ça s'arrangera, c'est une manière de penser devant le rôle qu'a joué le développement des sciences dans un développement littéralement insoutenable qui nous a amené là où nous sommes. L'institution scientifique a plutôt résisté à toutes les sonneurs les tireurs de sonnettes d'alarme qui disaient attention, ça crée des dégâts. Ils ont dit ces dégâts s'arrangeront grâce au progrès du savoir que vous critiquez. Donc ils ont, non seulement été irresponsables quant à la valorisation de certaines de leurs recherches, mais ils ont pris la responsabilité de dire ça s'arrangera, de soutenir comme progrès ce type de développement. Il s'agit de penser devant cela. Il s'agit de penser devant cela, c'est-à-dire de se rendre capable de pertinence, de se rendre capable d'imagination et d'attention, de se rendre capable de créer d'autres types de chercheurs que des chercheurs en compétition pour la publication dans des revues internationales. Ce ne seront pas les revues internationales qui nous aideront à survivre en 2050. Ce sont éventuellement des publications situées et concrètes qui impliquent activement ceux qu'elles concernent. Et donc je crois que l'idée d'impliquer ceux qui sont concernés par une évolution, une proposition, et de dire que cette implication est un mode d'évaluation, un mode d'épreuve, mais aussi un mode d'épreuve qui accentue la notion de pertinence, est quelque chose que nous devons aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas coupables, bien d'autres sont coupables s'il faut en citer, mais nous devrions, Gilles Deleuze a dit que un certain sentiment de honte est l'un des motifs les plus puissants pour penser. Eh bien, j'appelle les universités à sentir ce certain sentiment de honte et à en faire une imagination. Je vous remercie.
La parole à la salle, bien sûr.
Oh, je croyais que j'avais jusqu'à 10h25 et que...
On a peut-être tardé le départ.
Oui, non, mais je ne savais pas qu'il y aurait des discussions maintenant.
Je vous remercie pour ce brillant exposé qui a développé pas mal de sujets. Alors je reviendrai peut-être sur un seul. Et si je parodie un peu la devise de notre université, et je suis ce que vous avez dit, je dirais « Scientia vincere tenebras », mais sous le contrôle des contre-experts. Alors, je voudrais prendre le contre-pied et dire, bon, les contre-experts, il faut aussi voir ce qu'ils valent. Parce que si je considère, par exemple, l'influence du Vatican sur le Parlement européen et les recherches sur les cellules souches, je pourrais dire que les contre-experts sont questionnés. Bon, c'est ce point de vue que je voudrais peut-être soulever.
Tout autant que les experts. Je veux dire, un contre-expert n'est pas bon en soi alors que l'expert serait à soupçonner en soi. C'est le débat, c'est la mise en relief d'où se situent les arguments et de comment se situent les arguments qui permet éventuellement d'arriver à ne pas suivre une opération de propagande, qu'elle soit contre-experte ou experte.
Ça a bloqué la recherche pendant un certain temps en Europe.
Il y a des points parfois où on se dit un moratoire ne serait pas mauvais, mais je ne dis pas en général, mais en ce qui concerne les OGM, je suis assez fière de l'Europe en ce qui me concerne.
Mais pas en ce qui concerne les cellules souches.
Ah non, mais comment dirais-je ? On pense aux cellules souches, mais moi j'ai encore entendu un débat sur France Inter hier soir sur l'euthanasie. Ben, effectivement, les médecins bloquent en France l'euthanasie. donc là, c'est partout que l'on trouvera. Et, mais je crois que dans quelque chose que j'ai appelé une convention citoyenne, ben, les contre-experts sont évalués aussi ardemment que les experts. Hein. C'est les arguments qui comptent.
Chut. Isabelle, merci de ton exposé, je suis là. Tu as, dans la première partie de ton exposé, tu as réhabilité l'évaluation par les pairs, la lecture et l'intérêt des collègues compétents dans justement le progrès scientifique.
Mais en crise.
Oui, mais alors justement, lors de la première journée, il y a eu un gros débat sur les indicateurs quantitatifs. Il y a eu l'évolution de ces indicateurs quantitatifs vers justement la prise en considération plus ou moins objectivable de l'évaluation par les pairs, par le jeu de la référence. Les pairs qui s'intéressent au travail d'autrui doivent normalement, en théorie, s'ils sont honnêtes et s'ils y accordent de l'importance, doivent référer ces travaux. Et du coup, on peut juger de la qualité d'un travail de par le nombre ou le comptage de ces références. Quelle que soit la manière dont on prend en considération cet indicateur, est-ce que tu es d'accord qu'il a de l'importance dans l'évaluation d'un travail de scientifique, le comptage des références, si tu veux?
Ben, c'est-à-dire que, avant que tout le modèle de l'évaluation par le pair soit mis en crise par l'explosion de tous les nombres, nombre de disciplines, nombre de chercheurs, nombre, etc., ces références étaient connues. Oui, il y avait des querelles de priorité, ce qui prouve bien que citer ou des querelles de « je n'ai pas été cité », ça fait partie de la vie des sciences, toujours. Mais les pairs n'avaient pas besoin de mesures statistiques pour savoir le rôle qu'avait pu jouer le travail d'un tel ou même l'objection d'un tel dans le travail d'un autre tel. Je veux dire que ça faisait partie de ce qu'un petit nombre permet de connaître, un nombre plus ou moins, ou en tout cas, ils avaient un plus proche voisin qui pouvait le dire, je veux dire. Les statistiques sur les références, mais c'est dans les années 70 que ça commence. Et dans les années 70, déjà les effets de clic, les effets de renvoi d'ascenseur impliquent de nouvelles méthodes statistiques pour déceler les effets de clic, les renvois d'ascenseur. Donc ça a continué depuis, etc. Ça fait partie de ce que j'appelle la crise. Parce que justement, le fait qu'il puisse y avoir effet de clic prouve que ceux qui se basent sur ces données n'ont pas lu les articles, enfin ne connaissent pas le champ, ne sont pas compétents. Donc l'ensemble de ces instruments peut avoir un sens, pourquoi je m'en fiche, mais ça prouve que la notion de compétence est perdue et que on se réfère, on instrumentalise le jugement parce qu'on le doit, parce que ce travail n'est plus intéressant au sens, la notion de compétence du modèle original, qui était un modèle pour science, pour happy few, ne marche plus. Donc, l'évaluation par les pairs, dès qu'il passe par des instruments, n'est plus une évaluation par les pairs.
Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui, je vous demanderai autant que possible de dire votre nom juste avant d'intervenir.
Christelle Boulin du FMRS. Le problème maintenant, c'est qu'on a jusqu'à présent, les gens, et je ne dis pas que c'est la meilleure manière, mais jusqu'à présent, on a uniquement jugé les gens sur des publications, publish or perish, je suis tout à fait d'accord, mais on ne trouve pas d'autre solution. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Non, mais disons que ce que demandent les gens de slow science, c'est de bon sens, hein, qu'on ne compte pas le nombre de publications, mais qu'on donne aux candidats le choix de quelques publications et d'une présentation du rôle que jouent ces quelques publications qu'ils jugent spécialement remarquables, qu'on évite donc les saucissonnages, etc. Tout ça, c'est de bon sens. Mais ça veut dire que les gens lisent ces publications, on les confronte avec le programme, ils pensent. Ils peuvent ne pas être pairs, mais ils doivent penser. Ok, ça c'est très bien. Mais donc, fini les rankings, etc. Parce que les rankings, ça fait que, effectivement, certaines disciplines seront, comment dirais-je, directement influencées par ça. Par exemple, publié dans une revue internationale, ça exclut toute une série de recherches qui seraient hautement pertinentes de mener. Donc, en droit, par exemple, c'est le cas, Serge Gutwirth me disait, mais nous, on doit publier dans une revue belge parce que la jurisprudence et l'évolution du droit qui intéresse, qui nous intéresse, elle intéresse pas en Honduras, quoi. Donc il y a là, dans ce ranking, une interférence directe entre les sujets désirables et la carrière d'un chercheur ou d'un programme de recherche. Donc, ce que demande la slow science, c'est-à-dire réduire, c'est-à-dire favoriser des articles substantiels, et lutter contre la démultiplication et tout ce qui fait que non seulement ceux qui jugent ne sont plus forcément compétents, mais sont privés d'être aveugles, enfin, disons, pourraient être, comment dirais-je, analphabètes, tant qu'à faire, pour peser, va dans un bon sens, mais j'ai voulu aller plus loin que cette idée de slow science, dont on a de ralentissement des sciences pour quelque chose où on prend le temps d'écrire quelques articles. J'ai voulu aller plus loin, c'est-à-dire dire attention, évaluation dit valorisation. Ne cherchons plus à défendre, je sais bien que c'est la tâche du FNRS, mais ne cherchons plus à penser dans la science, mais dans les différents types de valorisation qui permettent à la science d'exister, aux sciences d'exister, et qui concernent les scientifiques, y compris quand ils proclament hautement qu'eux sont désintéressés et que c'est pas de leur faute si ça tourne, s'il y a quelques dommages collatéraux.
Je vous propose de nous arrêter là, de faire une petite pause. N'oubliez pas les 5 euros pour ceux qui participent, enfin qui nous accompagnent au repas. Et voilà, donc on se retrouve dans 15 minutes.